Alors nous sommes mercredi 20 décembre 2017, ici au bus Cartouche, juste derrière la gare. Et nous sommes en compagnie de Christine Abdelbiadjo. Alors merci à toi de nous consacrer quelques minutes dans ton agenda qui est assez chargé puisque tu arrives de Grenoble.
C'est ça.
Voilà. Alors effectivement à Grenoble où tu en fait es maîtresse de conférence à l'université. À part le fait que tu es également géographe spécialiste des questions de migration, on peut dire.
Oui, 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 tout à fait. Migration et frontières, on va dire.
Voilà, migration et frontières.
J'enseigne des cours en licence et en master, et puis après, je fais de la recherche à côté.
Voilà. Et alors, en l'occurrence, tu reviens d'un épisode assez particulier, assez singulier, qui, j'imagine, t'a passablement bouleversé. C'est ce que l'on pourrait appeler la cordée solidaire, pour utiliser des mots assez simples. Alors, peut-être pour commencer, voudrais-tu nous dire... qu'est-ce que c'est que cette cordée solidaire? Où est-ce qu'elle s'est passée et quand elle s'est produite?
Donc, c'était le week-end passé, samedi et dimanche. Et c'était... Alors, la cordée solidaire en elle-même a eu lieu dimanche, mais c'est vrai que c'était un peu un week-end de mobilisation en solidarité aux migrants. Alors, le samedi, il y avait un peu des préparations pour les états généraux de la migration qui vont avoir lieu en France entre juin et septembre, qui réunit donc une quantité importante d'associations et de groupes qui sont solidaires envers les migrants de toute la France. Donc ça, c'était samedi. Donc samedi, il y a eu quelques tables rondes, des discussions, des mises en lien de bonnes pratiques ou de problèmes que rencontraient ces groupes et ces associations un peu sur le territoire français, avec un accent sur les mineurs non accompagnés, donc la problématique des mineurs, et justement aussi cette envie de créer un réseau toujours plus fort, toujours plus connecté d'initiatives qui ont lieu un peu partout sur le territoire français. Donc ça, c'était le samedi, en présence d'Edvy Plenel, donc le directeur de Mediapart, donc ça fait un écho assez important, et en présence aussi de Cédric Héroux, qui est un peu l'agriculteur qui accueille dans sa maison, qui accueille en fait quelques milliers, en fait, maintenant, quelques centaines de personnes dans la vallée de la Roya, donc dans la partie des Alpes maritimes. Donc, ce qui a fait un petit peu le lien avec ce qui se passe dans cet autre endroit, donc dans la vallée de la Clarée, dans les Hautes Alpes, là où justement on était réunis. Donc, il y avait ces états généraux de la migration qui ont eu lieu à Briançon, et puis cette cordée solidaire qui a eu lieu à Névache, qui se trouve à quelques kilomètres de Briançon.
Ouais. Alors qui étiez-vous pendant cette cordée? Qui étiez-vous et qu'êtes-vous allé faire là-haut sur la montagne?
Alors, la cordée solidaire a été organisée par un tout jeune collectif qui s'appelle Tous Migrants, qui est un collectif de Briançon et de la Vallée, une toute nouvelle association qui vient de se créer et qui s'appelle les Guides Solidaires. Non, je me trompe, les Guides Sans Frontières.
Guides Sans Frontières,
ça réunit quelques professionnels qui sont en fait dans différents groupes de guides. Alors je ne sais pas exactement comment ils sont organisés, les guides et les accompagnateurs de montagne, mais ils se sont fédérés autour de ce groupe, de cette association. Je ne sais pas s'ils ont déjà le statut d'association, mais qui s'appelle Guides Sans Frontières. Et Guides Sans Frontières, le 15 novembre, si je ne me trompe pas, a envoyé une lettre ouverte, une lettre à M. Macron, donc le président de la République française, pour lui demander d'agir, de faire quelque chose pour faire en sorte que les Alpes ne deviennent pas la deuxième Méditerranée. Donc c'était un peu un cri d'alarme, un cri un peu désespéré de la part de ces guides qui aujourd'hui se retrouvent à devoir sauver quand même un nombre assez important. Alors c'est pas des centaines de personnes, mais des dizaines de personnes qui passent le col de l'échelle et qui se trouvent en fait en situation d'hyper précarité, voire en fait de danger de mort. C'est donc des migrants, c'est surtout des personnes qui viennent d'Afrique de l'Ouest, de beaucoup de Guinée-Conakry, et qui en fait vu que la frontière s'est fermée à Vintimille, donc ils ne peuvent plus passer par Vintimille, que c'est quand même difficile de passer par la Roya, c'est la nouvelle porte d'entrée, et celle qui amène en fait en France de Bardonec, Bardonech en français, ouais, jusqu'à Briançon via ce petit ce col, ce qui s'appelle le col de l'échelle, qui est aujourd'hui enneigé. Il y a 2 mètres de neige qui sont sur le col et qui atteint des températures de moins 20 degrés pendant la nuit, ouais, ou le matin. Donc c'est dans cette situation-là que ces guides sans frontières ont lancé l'alarme, ouais, à la France entière. Et on voulut réagir en disant, ben, Monsieur Macron, vous êtes invité le 17 décembre à une cordée que nous organisons pour qu'on puisse vous montrer ce que ça veut dire passer un col en basket, sans habits adaptés, en décembre. Et donc venez voir, et venez voir aussi que c'est dangereux et que nous, on est là aussi pour sauver ces gens. Et donc c'était un peu ce cri d'alarme. Alors l'idée, c'est vraiment de montrer, alors en théorie à M. Macron, mais à tous ceux qui le désiraient, de montrer ce que c'est que passer ce col en hiver. Et du coup, il y a 300 personnes, qui auraient 20 professionnels de la montagne, donc guides et accompagnateurs de montagne qui étaient là, et 300 personnes environ qui ont participé à cette cordée.
Est-ce que c'est un exercice qui a vocation à être répété, la cordée solidaire?
Je ne sais pas. En tout cas, ça a eu énormément de succès. Mais même pendant les 2 jours, il y a eu, je ne sais pas, 600, 700 personnes qui sont passées entre les tables rondes et puis la cordée. Ce qui est sûr, c'est que voilà, la question maintenant, c'est de savoir. Alors, les médias en ont beaucoup parlé. Il y a eu les grands titres de Libé, notamment. Hein. Mm-hmm. Donc ça a été pas mal relayé. Mediapart a fait des numéros spéciaux là-dessus. Le problème pour moi, en tant que chercheuse, c'est de savoir, et puis voilà, pour eux, hein, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer dans une semaine quand la presse n'est plus au rendez-vous. Ouais. Et du coup,
parce
je vois l'importance.
L'hiver continue. Voilà, exactement. On peut dire que c'est un chemin alternatif quasiment obligé, comme tu l'as dit, puisque les autres débouchés sont désormais clos.
Pour les personnes qui veulent passer en France, c'est un peu la seule option. Après, il y en a d'autres, mais bon, ça va être encore tout aussi dangereuse. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a deux choses qui sont vraiment sorties dans les débats et dans ce que les guides ont dit, c'est qu'effectivement, il y a le problème de l'hiver, du froid, hein, donc des conditions naturelles qui sont liées à la montagne, à l'altitude, mais il y a aussi un danger qui est, lui, évitable, et c'est celui de la traque que les policiers sont en train de faire aux migrants sur cette route. Il faut savoir qu'il y a 3 corps de police qui sont présents, qui a des patrouilles tout le temps, qui patrouillent la vallée. Nous, juste en disant, en voiture de Briançon jusqu'à Névache, qui est le début du col de l'échelle, où on a laissé la voiture pour commencer la cordée, on a rencontré 4 patrouilles de police en, je sais pas, 10 minutes, non, un quart d'heure de route. Et il y a apparemment, de ce que les personnes sur place nous disent, il y a la police nationale, il y a la gendarmerie et il y a l'opération Sentinelle. Opération Sentinelle, qui est cette opération anti-terrorisme. Qui a été en fait déployé aussi à cet endroit-là. Et les personnes sur place nous disaient que quand ils interrogeaient en fait ces policiers pour leur dire « Mais qu'est-ce que vous faites là? Il n'y a pas de terroristes ici. Mm-hmm. » Ils disaient « Mais nous, on n'est pas là pour les terroristes, on est là pour contrôler les flux migratoires. » Donc c'était clair et net. D'accord. Leur mission est celle d'arrêter les personnes. Et ce n'est même pas celle d'arrêter les personnes, en réalité, c'est celle de d'être un peu les premiers à prendre les personnes dans leur fourgon pour les reconduire à la frontière en Italie. Donc il y a ce jeu du chat et de la souris, en fait, qui est dramatique, mais c'est vraiment ce « je prends les personnes en premier pour pouvoir les reconduire à la frontière ». Et il y avait le maire de Bardonec qui était là le samedi pendant les débats. Il y avait le maire de Briançon qui disait « il faut arrêter ». De continuer à faire comme un paquet de la poste, à se renvoyer la balle, quoi. Ouais. Donc ça, c'est aussi une revendication assez forte, disons, on ne résout pas le problème en se balançant les personnes à droite à gauche de la frontière.
C'est-à-dire que les édiles locaux, donc tu l'as dit, les maires sont, eux, sont partie prenante, fait et cause pour pour contrer cet état de fait. Qu'en est-il justement de cette lettre? Est-elle restée sans réponse ou y a-t-il une réaction autre que les médias nationaux en politique?
Disons que Monsieur Macron, je ne l'ai pas vu à la Cordée solidaire.
Certainement pas. Mais aurait-il dit quelque chose ou...
Non, la réponse non, a été a complètement indirecte, mais celle des nouvelles lois qui sont en train d'être mises en place par Monsieur Collomb, cette fois-ci. Cette fois-ci, c'est ouais, le bras droit sur la question migratoire de Macron. Mais des réponses qui sont, qui vont dans le sens des autres réponses qui ont été données ces derniers mois. Ça veut dire notamment, et ça a été dénoncé aussi, la question de faire un tri à l'entrée des centres d'urgence. Ça veut dire que les centres d'urgence pour personnes en difficulté, qu'ils soient migrants ou pas migrants, en fait, en situation régulière ou irrégulière, désormais, l'idée est celle de faire entrer que les personnes qui sont avec les papiers, et les sans-papiers devraient rester dehors, et donc mis en détention administrative, et donc reconduits à la frontière.
Ouais.
Donc, c'est un peu... Donc, il n'y a pas une réponse par rapport à la lettre, mais c'est vrai que ça a été beaucoup discuté aussi, c'est ce climat, en fait, anti-migrants, anti-réfugiés, qui règne en ce moment en France.
Que sait-on des passeurs? Parce qu'effectivement, concernant la Méditerranée, le travail que, parmi les travaux de recherche que tu as fait, tu as pu, distinguer, identifier certains cheminements, certains types de passeurs qui sont-ils. Mais alors là, pour la montagne, ce sont des gens locaux?
Ça dépend un petit peu. Déjà, ça dépend un petit peu où on met la barre de qui est passeur et de qui ne l'est pas. Je crois que Edwy Plenel a répondu en disant d'un problème de frontière. La montagne ici, c'est sur la frontière. Mmh. Les gens de frontière sont forcément des passeurs. En le prenant en sens large, effectivement et évidemment. Ceci dit, quant aux passeurs, moi je ferai juste peut-être un lien là avec, vu que tu l'as mentionné, la question de la Méditerranée et la question de des Alpes. C'est assez étonnant comme tout se répète, même si un schéma qui est un peu différent, mais tout se répète de ce qui s'est passé en Méditerranée par rapport à ce qui est en train de se passer dans les Alpes. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a des guides, des professionnels de la montagne qui alertent le public, alertent le public et les politiques de ce qui est en train de se passer sous leurs yeux. Ça veut dire des gens qui meurent en montagne, des gens qui pourraient être sauvés. C'est exactement la même chose qu'au début, les pêcheurs ont fait en Méditerranée. Les pêcheurs étaient ceux qui ne sauvaient pas des migrants, qui sauvaient des êtres humains en détresse, et que le code de conduite et même moral des professionnels, des pêcheurs comme des guides, leur empêche de laisser mourir des gens. Enfin, ils sont obligés par la loi, mais aussi par leur humanité, de les sauver. Qu'est-ce qui s'est passé en mer? Les pêcheurs ont commencé à être criminalisés. Okay. Donc ce que vous faites, c'est en fait faire un appel d'air. Ça veut dire que si vous les sauvez, vous êtes en fait en réalité des passeurs, et vous n'êtes pas en train de sauver des gens, mais peut-être vous les amener. Donc il y a eu toute une criminalisation des pêcheurs, ce qui a conduit en fait les pêcheurs à ne plus sauver des gens.
Mm-hmm.
Okay. Ou en tout cas à avant tout ne pas les prendre sur leur bateau qui était confisqué. Ils ont perdu énormément d'argent, les pêcheurs, hein, de pêche, des jours de pêche avec des bateaux confisqués, quoi. Donc c'est leur moyen de survie était plus là, quoi. Et du coup, les pêcheurs, ce qu'ils ont fait, c'est dire, OK, on ne sauvera pas des gens, on alerte, on donne l'alarme au secours. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aussi dans les Alpes. Les guides, qu'est-ce qu'ils faisaient avant? Ils sauvaient des gens, ils les ramenaient en bas, ils prenaient en voiture pour les ramener à l'hôpital de Briançon. Aujourd'hui, ils ne font plus ça depuis que quelques personnes ont été criminalisées aussi, ont été amenées par la police au poste de police, des guides, parce que, soupçonnés de favoreggiamento, comme
ce qu'on dit,
favoriser l'immigration illégale. Et donc, du coup, là aussi, ce qu'ils font maintenant, ce n'est plus de prendre les gens avec eux, mais d'appeler les secours. Donc, ouais. Ils ont cette réaction-là, jusqu'à quand, en fait, ils vont pouvoir faire ça avant qu'on leur dise c'est un appel d'air, ce que vous faites c'est la limite de la loi, alors que ça ne l'est pas. Mais comme ça a été fait pour les ONG par exemple en Méditerranée, qui ont eux aussi commencé à avoir des problèmes avec les préfectures qui ont commencé à enquêter sur eux, quoi. Donc il y a vraiment ce parallèle là à tirer et qui est voilà quoi. C'est moi ce que je crains, c'est qu'il va y avoir un acharnement sur eux quoi. Non. Alors c'est des gens qui sont très droits, qui sont très convaincus de ce qu'ils font. C'est des gens qui avaient l'air très déterminés, donc ils n'ont pas envie de se laisser faire. Mais derrière eux, il y a quand même un marteau compresseur.
Ouais, c'est ça. Est-ce que justement, quand ils montent cette association, ou en tout cas ce qui est en train de devenir une association, Guide sans frontières, est-ce qu'il y a cet intérêt-là, il y a ce calcul-là en disant, attention, comme on peut faire cette analogie avec ce qui s'est passé en Méditerranée, on sait qu'on va être criminalisé, on l'est d'ores et déjà, il faut qu'on se défende, il faut qu'on s'organise entre nous. Est-ce que c'est pour ces dessins-là ou c'est autre chose encore ?
Je crois ils ont pris une conscience, la prise de conscience politique a été très rapide parce que ça fait pas longtemps que les migrants passent par là, c'est depuis cet été un petit peu, hein, mm-hmm. Et ça fait depuis un mois ou deux qu'il y a de la neige où la situation devient vraiment dramatique. Mais ceci dit, c'est des personnes. Il y a une interview avec une personne qui tient un gîte de montagne, mmh. Et qui disait moi j'étais indignée face à ce qui se passait en Méditerranée, je me disais que c'était pas possible de laisser mourir des gens en mer comme ça, ceci dit c'était près mais c'était loin de moi, alors que là c'est ici et que là du coup c'est chez moi et là du coup je le laisserai pas faire. Ceci dit, je pense qu'il n'y a pas encore énormément de liens qui sont faits, ça leur tombe dessus quoi, mmh. Et il n'y a pas énormément de liens qui sont faits avec d'autres situations ailleurs, d'autres luttes qui se font ailleurs. Bon, c'est vrai que Cédric Héroux était présent à la table ronde, donc ça fait quand même un lien très fort, mmh. Mais voilà, ils savent ce qui se passe à Calais mais ils n'ont pas cette habitude là. Juste une anecdote, tous migrants qui est aussi qui était un peu derrière l'organisation et des états généraux de la migration et aussi de la coordée Sinidaire. Ils n'ont pas un compte Facebook, ils n'ont pas un compte Twitter, ils savent pas, je veux dire, à la samedi, alors je dis pas qu'il faut toujours passer par là, mais ça veut dire bien qu'ils sont, pour l'instant, ils n'étaient pas prêts à communiquer, à organiser un peu la résistance. Alors ils l'organisent très très bien à leur échelle. Hein, ça existe, mais de sortir de là pour voir quel est un peu le design un peu plus grand, c'est un pas qu'ils doivent franchir. Et c'est d'ailleurs, moi je me sens aussi un peu dans le rôle de les accompagner là-dessus quoi. Et du coup ils ont créé un compte Facebook, mais juste une anecdote, le samedi des tables rondes, il y avait deux personnes qui tweetaient ce qui se passait à Briançon, c'était moi et Edwy Plenel, donc il n'y avait que deux personnes qui le faisaient, et c'est pas une reproche hein, que je leur fais, c'est juste que voilà, que c'est vraiment tout nouveau, et ce qu'ils ont fait c'est incroyablement important, et de voir qu'il y a des citoyens lambda qui s'organisent et qui réagissent à ça, ça fait, à moi en tout cas, ça m'a fait un bien fou.
Ouais. J'allais justement poser cette question-là, est-ce que les réactions au sein de la population ont déjà cours ? Mais tu, oui, viens d'y répondre, en fait, ouais. Voilà, il y a une prise de conscience qui se manifeste.
Et il y a des prises de conscience à différents niveaux. Alors celui de l'humanitaire, donc de sauver des gens qui sont en danger de mort. Ouais. Hein. Et là, par exemple, les mots et des personnes. Et là aussi, quand on est en Méditerranée, vous avez la parole de qui ? La parole des pêcheurs et la parole des médecins. Et là, le médecin qui est orthopédiste, si je ne me trompe pas, chirurgien orthopédiste à l'hôpital de Briançon, il a pris une parole très 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 clair, très très déterminé, en parlant d'une politique qui est en train d'assassiner des gens, mmh. Et c'est un médecin, donc il y a eu effectivement, mais lui il voit les pieds congelés, il se dit c'est pas possible qu'en 2017 moi je dois amputer des jambes parce qu'il y a des gens à qui on empêche en fait d'entrer en France, et c'est en France, c'est aujourd'hui, c'est en 2017, c'est juste impossible, et c'est une volonté politique de faire ça, donc ouais. Ça c'est la parole d'un médecin qui est certainement un médecin humaniste, mais qui voit en fait les dégâts sous ses yeux quoi. Donc il y a et lui aussi qui dit, moi dans mon hôpital jamais je contrôlerai les papiers de personne, hein, ici je suis là pour soigner des gens, je suis pas là pour faire le flic. Donc il y a ce moment du secours où il y a effectivement énormément de personnes qui sont mobilisées. Je disais, il y avait 20 20 guides accompagnateurs de montagne qui étaient à la Cour des Solidaires, c'est pas un nombre négligeable, sachant qu'il y a un peu des, des guerres entre les différents groupes et tout ça, donc là ils se sont quand même unis pour une cause commune. Il y a aussi tout ce qui se passe au niveau de l'accueil, et ça veut dire qu'il y a aussi des demandeurs d'asile qui sont notamment appréhensions dans un squat qui s'appelle Chez Marcel. Et chez Marcel, il y a une trentaine de personnes qui passent, voilà, qui sont accueillies en fait dans le Briançonnais. Et il y a des communes qui ont été tout à fait ouvertes à l'accueil. Donc un peu au deuxième, là ce n'est plus l'urgence, mais c'est la construction d'un parcours. Et c'est vrai que c'est, la question est aussi de savoir, les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui passent par là, donc c'est surtout des jeunes hommes. Alors, il y a eu aussi apparemment une femme enceinte qui a été sauvée, mais il y a surtout des jeunes hommes célibataires d'Afrique de l'Ouest, donc noirs. Hein, ce qui fait que aussi dans la vallée, voilà, c'est une nouvelle découverte. Mais qui transite en fait. Et il y a aussi toute la question de la population locale. Moi, j'ai parlé avec une élue d'une petite ville pas loin de Briançon qui me disait c'est aussi un peu la question de savoir ces gens-là veulent partir plus loin parce que Paris, ça fait rêver, parce que peut-être les grandes villes, ça fait plus rêver que ces montagnes enclavées ici dans les Hautes-Alpes. Ils me disaient, mais peut-être ici, ils vont avoir plus de chances de trouver un travail, peut-être ici, ils pourraient avoir plus de chances d'avoir un futur, mais va leur expliquer. Et ça, c'est aussi un peu la question de savoir comment faire en sorte de voilà, à la fois de laisser les personnes vivre leurs envies et puis leurs rêves, ou en tout cas leurs aspirations, ou leurs projets, en fait, tout simplement migratoires. Ouais. Mais en même temps, leur dire, écoutez, peut-être ici, c'est effectivement...
Voilà, tout est état de cause, on sait que...
Peut-être, ici, il y aurait un accueil. Alors, combien, pourquoi, comment? Mais c'est vrai que c'est aussi une question qui a été soulevée pendant la conférence de presse. Il disait, c'est du pain béni d'avoir des gens qui arrivent de loin dans les Hautes-Alpes, parce qu'on a du travail ici, et il n'y a pas de gens. Voilà, et donc, du coup, s'ils viennent, ça pourrait, en fait, faire revivre. Et du coup, le lien avec Riace a été fait, donc cette ville en Calabre qui a effectivement tout misé sur les migrants.
Sauvée par les.
Donc voilà, il y a eu toutes ces réflexions aussi.
Ouais, mais des gens invalides, comme c'était des gens valides. Parce qu'après, si on parle de personnes estropiées qui ont perdu des membres ou qui ont des problèmes de santé.
Ah, ça, c'est sûr. Mais là, pour la majorité arrive quand même plus ou moins sauvée.
Alors, l'hiver est encore long et rude. Alors, est-ce que tu penses qu'on peut imaginer qu'il y ait une sorte de trêve parce qu'il y a cette urgence absolue et que les choses changent extrêmement vite, extrêmement concrètement, en direction du sort qui est fait à ces personnes migrantes qui traversent ces montagnes?
Ça n'a pas l'air.
Ça n'a pas l'air pour toi. Donc, toi, tu es plutôt pessimiste par rapport à ça. On peut imaginer qu'il y ait... Comment dire, des personnes effectivement mutilées, des personnes même qui décèdent.
C'est une des grosses craintes des guides, c'est le printemps.
C'est au moment où ça dégèle.
C'est au moment où ça dégèle et combien de corps vont être trouvés. Mon Dieu. Alors l'année passée, ils ont déjà trouvé des corps au moment du dégel et là, il y en aura plus parce qu'il y a simplement plus de passages.
D'accord. Comment est-ce qu'on peut... Alors on l'a vu, c'est Guides sans frontières notamment qui organisent un petit peu les choses. Comment est-ce que les personnes qui nous écoutent peuvent-elles s'informer par rapport à ça et éventuellement apporter une aide quelconque? Peut-être cette association a-t-elle déjà... commence à mettre en place un site, une page Facebook également.
Ouais, il y a tous migrants. Alors il y a aussi un hashtag qui est SOS Alpes Solidaires, donc Alpes au pluriel, Solidaires au pluriel, mais qui n'a pas vraiment de répondant. Alors pour l'instant, je ne dirais même pas quels sont vraiment les besoins parce que je ne sais pas. Alors probablement c'est des habits chauds et comme un peu partout, comme à Calais. Mais j'ai l'impression que pour l'instant à ce niveau-là, la vallée répond positivement. Donc, mais il faut poser la question. Et justement, là, il y a ce nouveau compte Twitter. Alors, il y a, pour le coup, il y a une page internet, un site internet de Tous Migrants, et c'est tousmigrants, tout en un mot, .org. Et peut-être, il y a un formulaire de contact, et puis du coup, la question peut être posée directement à eux.
D'accord. On arrive doucement au terme de cet entretien. Je te remercie d'ores et déjà, Christina Del Biagio, de nous apporter toutes ces informations-là. Peut-être un mot concernant Étienne, une personne que l'on va justement écouter demain par Skype, qui lui-même est un guide, un accompagnateur de montagne, et qui a réalisé un entretien avec Moussa, qui est en personne, un migrant qu'il a secouru en montagne et qu'il a visité ensuite à l'hôpital. Voudrais-tu nous dire quelques mots ?
Oui, alors j'ai découvert moi aussi qu'il s'appelait Moussa le soir où Étienne nous a parlé en conférence de presse. Étienne est un accompagnateur de montagne et c'est, moi j'étais dans sa cordée en fait, en montant à la cordée solidaire, donc j'étais juste derrière lui quand il reçoit un appel sur son téléphone et quelqu'un demande que Étienne aille secourir une personne, ou en fait nous a dit il y a des personnes en difficulté quelque part là-haut, et donc moi je vous quitte et puis je vais voir ce qui se passe. Donc lui il a quitté notre cordée. Mon compagnon Albé avait des gants dans son sac, donc du coup il lui a donné des gants pour aider ces personnes. On savait pas trop, mais en fait il s'avère que donc lui il est parti en courant en fait sur ses skis, sur ses raquettes, pour aller chercher la personne. Non, il y avait 20 guides, je crois qu'ils étaient deux ou trois, je pense, sur place. Ouais. Et du coup il a été voir ce qui se passait, et là il découvre il a appelé longtemps. Parce qu'il avait le numéro de téléphone, et heureusement il y avait encore de batterie dans le téléphone de Moussa. Donc Moussa a été sauvé par Étienne. Et voilà, donc Étienne vous parlera de ce sauvetage.
Il lui a probablement sauvé la vie.
Certainement, parce qu'il était parti à 5h du matin, je pense. Et quand il l'a retrouvé, il n'avait plus de chaussures, il était pieds nus. Et il avait le pied droit ou le pied gauche avec des gelées au deuxième niveau. Donc voilà, mais ce qui est aussi assez touchant, c'est que quand il nous a raconté un petit peu ça à Étienne à la conférence de presse, il nous a dit, voilà, du coup moi j'ai essayé de le rassurer, de lui dire que là il était à l'hôpital, qu'il était soigné, et puis qu'il était tranquille. J'ai voulu le rassurer en disant à partir de là tout ira bien, mais en fait je savais que je mentais en partie. Et donc du coup je me sentais aussi coupable de lui dire tout va bien maintenant, alors je sais que je lui ai sauvé la vie, donc c'est une vie sauvée, mais ceci dit la vie peut être, cette vie peut être brisée juste après aussi.
Absolument, ouais. Alors écoute, pour en terminer rapidement, si tu as eu quelques informations concernant justement Cédric Héroux, sais-tu si son cas avance un petit peu, parce qu'on peut dire qu'il est quelque part emblématique de cette répression qui s'abat implacablement sur les personnes qui font uniquement preuve d'humanité, rien de plus. Qu'en est-il ? Est-ce que tu as eu quelques nouvelles ? En avez-vous discuté un petit peu ?
J'ai pas de nouvelles de ce qui se passe à La Roya. Ce que Cédric Héroux nous a dit clairement, c'est que ça lui faisait aussi un bien fou d'être là à Briançon, parce qu'effectivement la réponse de la préfecture était très différente et que c'était beaucoup plus ouvert dans les Hautes-Alpes qu'effectivement chez lui dans les Alpes-Maritimes. Mais par contre, je ne sais pas exactement la situation dans la vallée de La Roya, ça je ne sais pas.
D'accord. Je te remercie beaucoup. Christina Del Biagio, donc tu es maîtresse de conférence à l'Université de Grenoble, spécialiste des questions de géographie et des frontières. Et puis on espère nous retrouver pour des nouvelles un petit peu meilleures, ou en tout cas une évolution de la situation qui soit pour les meilleurs.
En tout cas, je vais essayer de suivre ce cas-là. Je vais retourner, je pense, dans une semaine, parce que j'ai oublié des bottes là-haut. Donc du coup, je suis obligée, mais c'est avec plaisir que je vais voir les personnes de tous migrants. Ouais. Et puis voilà, donc je donnerai des nouvelles.
Et alors justement, pour en terminer, complètement cette fois-ci, comment est-ce qu'on peut se tenir informé des travaux que tu mènes, des travaux de recherche que tu mènes ? Y a-t-il Visocarto, par exemple,
que tu
recommandes ?
Oui, ça c'est un site que je recommande, voilà. Mais ceci dit, pour voir, j'essaierai de faire un peu le relais sur Twitter. Mon compte, c'est @cdb-77, parce que là je suis en Suisse, je peux dire 77. Et puis sinon, sur ma page de l'Université de Grenoble, Alpes, en fait, du laboratoire PACTE, P-A-C-T-E.
D'accord. Merci beaucoup et bonne continuation.
Merci à toi.